On entend beaucoup parler de changement climatique, mais en fait, pas tant que ça. Et en réalité, on n'y comprend pas grand-chose. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Wagner, qui est un ex-financier, qui est aujourd'hui un créateur de contenu. Il a créé le blog Bon Pote, qui est un blog, comme il le présente lui-même, qui parle d'un truc pas cool, qui est le changement climatique. Et avec Thomas, on parle de nombreux sujets. D'abord, de comprendre c'est quoi précisément le changement climatique, quelles sont toutes les dimensions que ça touche, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour changer, qu'est-ce que ça a comme impact sur la société, l'impact aussi en politique. Bref, on essaye de couvrir la manière dont ce sujet devrait être traité dans la société et quelles solutions on pourrait apporter. Un épisode évidemment passionnant que je vous laisse écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour Thomas.
Salut Greg.
Comment vas-tu aujourd'hui?
Très bien.
T'as fait une longue route pour venir me voir.
Ah oui, j'ai traversé le périph' presque, donc tu te rends compte que c'est une bonne route. Ouais.
Je voudrais parler avec toi, je suis ravi d'avoir cette conversation, ça fait un petit moment qu'on discute ensemble. En particulier, j'aimerais débuter par ce bouquin dont tu parles, auquel tu fais référence de manière assez régulière, autour du fait de parvenir. Sachant que toi, t'avais une carrière plutôt toute faite, on va dire, dans la banque, et que t'as complètement décidé de changer de carrière. Est-ce que tu peux me parler de qu'est-ce que c'est pour toi aujourd'hui de parvenir? Qu'est-ce que c'était avant et qu'est-ce que c'est aujourd'hui?
Ouais, le principe, bon, ça a été mis en lumière par Corinne Morel-Darleux dans un livre qui s'appelle, j'ai toujours du mal à me rappeler du titre alors qu'il est
Ah bah,
magnifique ce
ça
livre,
commence bien.
c'est plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Donc c'est un livre très court, il fait 90 pages environ, mais c'est vraiment de la poésie, même si c'est sur l'effondrement, c'est de la poésie. Et le principe de refus de parvenir, c'est de pouvoir réussir sans écraser les autres. Donc je fais un parallèle tout de suite avec ma propre petite carrière où j'ai passé plus de 10 ans en finance. Mais aujourd'hui, enfin, je ne vais pas te faire un dessin, les marchés financiers sont évidemment pas soutenables. Il y a plein de choses qui ne vont pas et ça ne m'allait pas d'un point de vue en tout cas personnel et éthique. Donc la pression, c'était un peu une épée de Damoclès les dernières années. J'arrivais à rester. J'ai commencé à écrire en parallèle, on va en parler. Mais petit à petit, ça devenait trop. Donc j'ai fini par quitter pour pouvoir un métier qui s'aligne un peu plus sur mes valeurs. Et voilà.
Donc, tu as fait ce qu'on appelle j'ai appris le mot ce week-end. Hein, donc, je fais une sorte de passage un brown-out. Donc, enfin, aller du sens du burn-out. Le brown-out, c'est quand tes valeurs ne correspondent plus avec le travail
Parfait.
que tu fais.
Quand
Donc,
j'apprends ce genre de mots, je le mémorise et pendant 6 mois, je parle que de ça. Donc, très bien.
voilà. Et donc, aujourd'hui, tu as lancé un blog qui s'appelle Bon Pote, sur lequel tu parles d'écologie, principalement, très majoritairement. Pourquoi ce sujet-là en particulier par rapport à d'autres sujets qui pourraient te sembler aussi importants?
Alors, la première des raisons, c'est parce qu'on n'en parle pas assez. J'ai publié ce matin même le résultat d'une étude. 1% des médias, le temps d'antenne, c'est 1% qui est consacré au sujet écologique. Alors que c'est vraiment les enjeux, les questions écologiques sont les enjeux des prochaines décennies. Et on en parle 1%. Donc là, typiquement, je sais que tu n'habites pas en France, mais j'imagine que tu te tiens au courant de ce qui se passe. Les médias aujourd'hui parlent, en gros, des conneries de Zemmour, d'immigration. Là, tu as déjà pris 60%. En plus, après, tu as Jean Michoux qui nous parle de son chat. Et voilà. De temps en temps, on parle du changement climatique, etc.
Et est-ce qu'il n'y a pas un problème justement avec le changement climatique, dans le sens où on parle principalement de l'augmentation de la température ou voilà, et pas vraiment de la biomasse, par exemple, de la biodiversité. Je trouve que, en fait, enfin, j'ai la sensation, mais peut-être que je me trompe, c'est à toi de me dire, que le sujet de l'écologie, il est de plus en plus concentré sur l'énergie et sur l'empreinte carbone, et pas tant sur le reste. Et moi, par exemple, quand j'entends des personnes nous expliquer que on est en train de travailler sur des technologies, par exemple, c'est l'énergie de fusion, si je ne me trompe pas, qui vont permettre de générer de l'énergie sans gaz à effet de serre et que ce sera génial, je me dis, mais en fait, c'est la pire nouvelle pour l'humanité, parce que si on commence à créer une énergie qui génère aucun gaz à effet de serre, bah, du coup, ça va nous permettre de continuer sur la route sur laquelle on est et donc de continuer à éteindre l'intégralité des autres espèces. Et en fait, comme on fait partie de l'écosystème, ça fonctionne plus.
Je te rejoins entièrement. Quand on en parle majoritairement du carbone, c'est ce qu'on appelle la carbone tunnel vision. Donc en gros, on ne parle que ça et on oublie tous les autres pans, dont la biodiversité évidemment qui est hyper importante. Il y a eu la cinquième limite planétaire qui a été franchie il y a 2 semaines absolument personne n'en a parlé, hein, évidemment. Mais oui, oui, t'as vraiment entièrement raison. Ouais. On en parle pas du tout assez. Et...
C'est quoi les arguments, en fait, entre guillemets, que tu utilises pour essayer de convaincre des personnes qui ne sont pas convaincues? Parce que le problème qu'on a avec ces sujets-là, c'est que souvent, on parle à des gens qui sont déjà convaincus. C'est super et on les renforce dans leur vision du monde. Mais par contre, la problématique, c'est toutes les personnes qui ont du mal à accepter la problématique. Et après, on ira sur les gens qui ont compris mais qui ne veulent pas changer. Mais ça, c'est un autre point encore.
Ouais, il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a un gros déficit d'information. J'ai parfois très envie de m'arrêter dans la rue, même sur les Champs-Élysées, de me dire « Ok, je pense 100 personnes et je fais des tests moi-même. » Je pense que tout le monde aujourd'hui en France va te dire « Oui, il y a un problème avec l'environnement, c'est une très grande majorité. » En revanche, si tu leur demandes quelques ordres de grandeur, « Ok, à quel point c'est grave et à quel point tu dois changer ?» Il y a 90-95% des gens qui ne pourront pas répondre. J'ai fait un test récemment avec mes amis, parce que j'aime bien me faire offrir des restos quand je vais au resto, donc je fais des paris avec eux. Et le grand jeu en ce moment, c'est de dire « Ok, on prend 10 personnes dans le resto et on leur demande « Est-ce que vous savez ce qu'est le GIEC ? Est-ce que vous savez ce qu'est une empreinte carbone ? Et ensuite, quelle est l'empreinte carbone moyenne et quel est l'objectif à atteindre ?» Et en gros, le pari, c'est que il y ait 20... C'est vraiment, c'est rien du tout. Qu'il y ait 2 personnes qui répondent sur 10. Au début, c'était la moitié, mais comme ils perdaient à chaque fois, ils en avaient marre. Eh ben, je n'ai pas encore payé un seul resto pour l'instant.
Alors peut-être que tu peux nous répondre à ces 3 questions. C'est quoi le GIEC ?
Le GIEC, c'est un organisme international qui fait une synthèse en 3 groupes de travail, qui fait une synthèse sur le climat. La première, c'est sur un pan physique. La deuxième, c'est sur l'adaptation. Donc, comment on va faire pour s'adapter au changement climatique. Et le troisième, c'est l'atténuation. Donc, comment on fait pour baisser les émissions. Donc, eux font une grosse synthèse. Le dernier, typiquement, c'est plus de 4000 pages. Là, c'est sorti en août, que moi, j'essaye de mon côté ensuite de résumer dans mes petits articles entre 5 et 10 minutes de lecture pour que ce soit accessible.
Mais il y a un résumé, si je ne me trompe pas.
Et il y a un résumé. Il y a effectivement un résumé. Donc, c'est là où ça devient drôle. C'est que c'est un résumé pour les décideurs, donc qui est validé par tous les gouvernements. Mais tu doutes bien que dedans, c'est un peu difficile pour eux de dire « bon, c'est de la faute du pétrole, du charbon et du gaz ». Donc en général, ils sont assez bons pour retirer ces mots-là de ces résumés.
Mais néanmoins, ce qui est intéressant avec le GIEC, pour les personnes qui ne le connaissent pas du tout, c'est un groupement qui a été créé par les États, en fait. C'est-à-dire que c'est pas une entreprise privée, c'est des experts, des scientifiques qui se regroupent de tous les pays et qui se regroupent pour faire un rapport. Est-ce que tu peux nous expliquer ça aussi? Comment s'est constitué le GIEC et...
Alors, de mémoire, c'est Reagan et Thatcher qui ont lancé ça. Et c'est pourtant pas les plus écolos de la bande.
C'est clair.
Mais c'est eux qui ont lancé ça. Et de mémoire, le premier rapport a été décidé en 88 et sorti en 90. Là, on en est au 6e rapport. Donc, effectivement, en fait, petit à petit, il y a de plus en plus de précision. On sait, grâce au dernier, que... On est 100% responsable du réchauffement climatique. C'est plus on est 50%, 60%, 70%, c'est on est 100% responsable. Donc ça, c'est super important, parce qu'évidemment, ça gomme tous les arguments des climato-sceptiques jusqu'à aujourd'hui. Mmh. On pense qu'ils ont disparu, mais il y a encore quelques dinosaures, notamment dans les médias type CNews, etc., qui sont invités. Donc ça permet au moins de leur répondre. Mais bon, même si c'est aujourd'hui vraiment très minoritaire, en France en tout cas, aux États-Unis... Bon, il y a des pro-Trump, etc. Mais aux États-Unis, il y a 40% de climato-sceptiques, par exemple, dans les sondages. Donc, c'est quasiment une personne sur deux aux États-Unis.
Donc, on est meilleur en France ?
On est moins nul en France, je dirais, mais c'est aussi un gros déficit d'information. Si tu demandes aux scientifiques aujourd'hui, il y a 99,9%, il y a un chiffre comme ça que j'ai mis dans un de mes articles, des scientifiques sur le climat qui pensent qu'il y a un réchauffement climatique dû à l'homme. Si tu prends l'opinion publique en France, ça tombe à 75%. Et donc aux États-Unis, c'est ça, je te disais, c'est entre 40 et 50%.
La deuxième question, c'était, c'est quoi une empreinte carbone, c'est ça ?
Ouais, l'empreinte carbone, c'est en gros une division, c'est toutes les émissions de la France, donc importation, exportation comprises, et tu le divises par le nombre de Français. Donc c'est une moyenne, je précise bien, donc on est à 10 en moyenne.
10 tonnes ?
10 tonnes de CO2 équivalent en moyenne, et on doit passer à 2. Et ça, en général, c'est quand j'ai pas le temps de discuter avec des gens, bon, en soirée ou quand j'ai pas trop envie de casser l'ambiance, mais j'en parle rapidement, les gens ne sont pas au courant de ça. Et en gros, de 10 à 2, ce serait intéressant de faire l'exercice avec toi d'ailleurs, Greg, ça voudrait dire typiquement plus d'avions ou quasiment plus d'avions. Ça veut dire réduire sa viande drastiquement, ça veut dire quasiment plus de voitures, il faut prendre les transports en commun, etc., etc. Et en fait, c'est des ordres de grandeur que les gens n'ont en général pas. Et c'est pour ça que la première fois que tu apprends ces chiffres-là et que tu lis ces chiffres-là, soit l'autre passe pour un extrémiste. Moi, ça m'arrive, hein. Il y a 2 ans encore, mon cousin pensait que j'étais un fou, un extrémiste. Bon, maintenant, il a commencé à lire les chiffres et il me regarde un peu plus avec le sourire pendant les dîners de famille. Mais voilà, c'est le cœur de mon travail, en fait. Hein.
Mais il me semble qu'en France, j'avais une discussion comme ça avec Hélène de Vestel, qui m'expliquait que la problématique d'être né en France, c'est que les infrastructures elles-mêmes, c'est-à-dire les routes, les hôpitaux, les écoles, la manière dont la société fonctionne, font que ton empreinte carbone est de toute façon extrêmement élevée. En fait, par défaut, en fait. Même quand tu as une vie, entre guillemets, exemplaire, si tant est que ça puisse exister, mais, et que tu vis en France, par définition, ton empreinte est assez forte.
Ouais, t'as raison. Y a une empreinte carbone des services publics, donc les hôpitaux, les écoles, la police, l'armée. Même tu peux être anti-armé, mais en fait, l'empreinte carbone, elle est divisée par le nombre d'habitants en France. Donc, et en moyenne, ça te donne une tonne et demie, en gros. Donc ça veut dire que même avant de commencer et de respirer, tu commences l'année, tu as quasiment consommé ton budget l'année. Donc c'est pour ça qu'aussi qu'il y a des efforts à faire dans tous ces pans de la société et que ça doit être discuté collectivement. Il y a pas, en fait, tout le monde est concerné, que tu sois riche ou pauvre. Les riches sont plus concernés, on peut y revenir. mais que tu sois professeur, policier, etc., tout le monde est absolument concerné par ça.
Justement, tu parles des riches. Est-ce que toi, tu étais dans la finance. Mm-hmm. Moi, je vois beaucoup de repentance de gens qui parlent d'écologie aujourd'hui, mais qui étaient dans la finance avant et qui ont gagné de l'argent avant, en fait, et qui sont dans une situation, alors je ne parle pas de toi parce que toi, tu es encore extrêmement jeune, mais qui sont dans une situation où, en fait, financièrement, ils sont entre guillemets à l'abri, tant que ça veut dire aussi quelque chose. Et en fait, maintenant, ils parlent d'écologie. Et en fait, comment on fait pour des personnes qui n'ont d'abord pas l'espace pour y penser? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'espace pour y penser. Ce n'est pas ceux qui polluent le plus. Et souvent, on prend l'exemple de la caissière, mais en fait, la caissière, malheureusement, ce n'est pas celle qui pollue le plus. Hein. Ce que je disais, on peut y revenir, que ce sont les plus riches qui polluent le plus, parce que par définition, plus tu gagnes d'argent, plus tu consommes, plus tu pollues. Enfin, il n'y a pas vraiment de raccourci. Enfin, pas ici, c'est un énorme raccourci, mais il n'y a pas vraiment de... Voilà, on ne peut pas vraiment critiquer ça, en fait, on va dire. C'est difficile de remettre en question ça. Comment on fait pour que les gens se disent, ben, OK, moi, mon empreinte carbone, bon, c'est difficile à calculer. Il y a plein de manières de calculer en ligne. Tu peux peut-être expliquer, d'ailleurs.
Ah, si, mais... j'ai un article, page d'accueil de Bon Pote. Il y a 4 articles. Comment calculer son empreinte carbone? Ça prend moins de 5 minutes. Vraiment, en gros, mes amis qui sont très feignants, quand ils veulent commencer, je leur envoie ça. Je dis, ne faites rien, calculez votre empreinte carbone et ensuite on discute. Et en général, ils commencent à le faire, ils se disent, oh putain, j'ai 10, j'ai 15, etc. Et ensuite, ils disent, mais Tom, comment je fais? Donc ensuite, hop, je vois la suite des articles.
Et alors, comment on fait? Non, parce que, et encore une fois, on parle d'empreinte carbone, mais on va revenir, c'est pas qu'une question d'empreinte carbone. En fait, ça va être ça aussi la conversation qui va être intéressante.
Oui, non, bien sûr, c'est pas qu'une empreinte carbone, mais je pense que c'est bien pour mettre le pied à l'étrier de savoir quelle est ton empreinte. Et évidemment, c'est quelque chose d'individuel et on sait qu'il va falloir faire des efforts collectifs, donc faire une pression politique, puisque aujourd'hui, on a Emmanuel Macron et il a beau s'appeler le champion de la Terre. je sais pas à quel point on va parler politique, mais bon, Macron, en fait, a été condamné pour son inaction climatique, donc je peux au moins dire ça. Donc ça veut dire qu'il est pas dans les clous. Il faudrait faire au moins 3 fois plus. Donc tout ça, c'est chiffré, hein. Ce que je te dis, c'est des chiffres, entre autres, du Haut Conseil pour le Climat qui dit ça. Donc, c'est pas moi, Thomas Wagner. On est très en retard et c'est difficile de aujourd'hui pouvoir compter sur nos politiques. Typiquement, les transports en France, ça compte pour 31% des émissions. On a un ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, qui ne parle que de l'avion vert. Là, pour Roissy, en parlant de l'aéroport, il était en train de rêver d'un taxi volant pour aller entre Roissy et le centre de Paris. Mais en fait, 99,9% des Français vont prendre le RERB. Moi, je vais prendre le RERB. Donc lui, il s'adresse toujours, comme d'habitude, aux riches ou aux ultra-riches, et il oublie en fait une grande majorité des Français. Donc bon, il vit dans une bulle, etc.
Sachant qu'il y a 20% des Français qui ne prennent pas l'avion. Enfin, je veux dire, qui n'ont jamais pris, qui ne le prendront jamais.
Il y a 20% des Français qui n'ont jamais pris l'avion. Il y a 90% des humains qui n'ont jamais pris l'avion. Mmh. Et pour un ordre de grandeur, un seul aller-retour à New York ou à Dubaï, c'est ton budget carbone dépensé pour l'année. Donc ça voudrait dire, dans un monde où on doit respecter nos objectifs climatiques, si tu vas une fois à New York ou une fois à Dubaï, tu peux plus manger derrière. Tu vois le truc? Donc c'est ça qui est hyper difficile, surtout pour les gens qui sont le plus aisés. Enfin, personne ne part à New York pour le week-end, mais il y en a. Enfin, en gros, moi quand je croise ça...
J'en connais, hein.
Oui, ben, moi aussi, j'ai certains amis, c'est des assassins climatiques, je les aime, mais c'est comme ça. Quand je pense que ça avance, j'ai un gros réflexe, c'est d'aller sur Instagram. Instagram, c'est parfait pour ça. si tu penses que la cause climatique avance, hop, tu vas sur, et tu vois, je sais pas, 10 ou 15 influenceurs qui se font des allers-retours le week-end. J'ai juste à aller sur la page de Nabila et je me dis, ok, elle a 7 millions de followers, on est mal, en gros. Voilà.
J'ai plein de questions, mais avant de, parce que là j'en pose plein en fait, je réalise que je t'ai même pas demandé, et peut-être que c'est la première question, c'est quoi l'état que tu fais de la situation actuelle ? Et tu peux prendre ton temps, je veux dire, sur les différents pans de la situation.
Voilà, la situation, j'ai fait le parallèle il n'y a pas longtemps. En gros, pour moi, on est sur l'autoroute et il y a deux solutions. Soit on sort de l'autoroute et on prend la petite route de campagne sympa et on peut respirer, on peut prendre notre temps, on peut voir un peu de nature. Soit on reste sur l'autoroute, on appuie sur le champignon et on se mange un mur. C'est à peu près ça la logique actuelle. Mon analyse, c'est qu'on est très très loin de faire ce qu'il faut, d'un point de vue local, national et international. Ça commence un petit peu à bouger. J'ai l'impression que les événements dans le monde et les images ont choqué, plus que la connaissance des chiffres, on peut en parler. Là, on a parlé beaucoup de chiffres. Ouais.
Bah, pas tant que ça, j'aimerais bien que tu m'en donnes en fait, c'est intéressant.
Ah,
en fait.
Ok, bon, si tu veux des chiffres, j'en ai plein.
Ouais, mais... bah, je veux bien que tu nous en donnes parce que je pense que c'est important, tu vois, les 10 tonnes versus 2 tonnes, même si il faut qu'on discute de comment on fait pour y arriver, mais il y a plein de chiffres qui m'intéressent, tu vois, typiquement sur la biodiversité, sur les animaux sauvages, sur l'eau, alors je sais pas si les gens ont vu Cispiracy, Cospiracy, etc., ouais, qui sont des documentaires intéressants. Non, on peut pas. Mais...
La biodiversité, si tu veux un chiffre, en gros, pour les vertébrés, on a perdu 67% des espèces de vertébrés en 40 ans. Et on est en train, on est sur le chemin, on dit qu'une extinction de masse, il y en a eu déjà 5, on est en train de vivre la 6e, potentiellement, je dis bien. Le chiffre, en gros, c'est à 75% des espèces en moins, on dit qu'il y a eu une extinction de masse. C'est arrivé que dans notre histoire, on parle de millions d'années là, c'est arrivé que 5 fois. Nous, en 40 ans, on arrive à le faire. Et quand je dis nous, bien sûr, c'est les sociétés occidentales.
Okay. Alors, je vais te poser une question. Alors, je vais faire exprès, hein, mais n'empêche que je vais le faire quand même. En quoi ça nous... Enfin, c'est pas en quoi ça nous concerne, c'est triste, mais en quoi ça nous concerne?
Non, mais c'est une très bonne question. Parce que, alors, il y a aussi un réflexe. Typiquement, là, on voit les images, en tout cas depuis quelques années, on voit que l'Amazonie part complètement en sucette, l'Asie du Sud-Est, c'est pareil, etc. Et on se dit, bon, en France, on est bon, ça, peut-être qu'il y aura des problèmes en 2050, mais on est bon. Non, en fait, c'est pas du tout le cas. Il y a déjà des rapports qui sont en cours, des gens qui peuvent le vivre et le voir. Donc, c'est pas vraiment parce que le CO2, ça se voit pas, mais en revanche, ils le vivent déjà. Dans le sud de la France, où je passe une partie de ma vie, il y a les sécheresses, les canicules, il y a des inondations, bon, il y en a eu au Luxembourg, il y a eu des morts en Belgique l'année dernière, en plein été. Donc là, et j'ai eu l'impression, en tout cas, que les gens se sont dit, ah merde, en fait, ça peut aussi arriver aux pays riches, ça peut arriver à nous. New York, il y a eu 60 morts, le métro a été inondé, etc. Les images étaient choquantes. Ça, j'ai eu l'impression que ça a marqué un peu. Mais surtout, il faut bien retenir que le changement climatique, c'est pas en 2050 ni en 2030. Ça a déjà des conséquences. Et surtout, ça va être exponentiel. Donc, ça va pas se passer tranquillement. Ça va sincèrement pas bien se passer. Donc, c'est pour ça que moi, j'alerte. J'ai toujours un backup. Je back mon travail avec des études scientifiques. Parce qu'évidemment, quand tu demandes aux gens de changer... ou aux politiques de changer, ils vont vous dire, bon, en fait, toi, t'es un extrémiste, ou t'es un vert, t'es un... Tu vois, je prends des insultes quotidiennement, on peut y revenir derrière. Et c'est pour ça que je back mon travail avec des études scientifiques. Le seul partenariat, typiquement, que j'ai accepté, c'est de travailler avec le CNRS, qui me paraît pas non plus être Total ou le SUV Citroën, tu vois.
Mais pour revenir sur l'extinction de masse... l'action que je me posais, évidemment, tu vois, quand on voit un ours polaire tout seul sur une banquise, etc., c'est triste. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas le rapport entre notre existence, puisque finalement, la majorité de ce qu'on mange, c'est des poules et des bœufs. Donc, c'est pas des ours. Tu vois, et on fait pas, les gens font pas forcément le rapport entre le lion et leur vie au quotidien à Paris. Enfin.
Il peut y avoir, je vais te dire un truc qui en général marque bien les esprits. On ne connaît pas l'origine du Covid, mais l'accélération du nombre de zoonoses, donc c'est les maladies des animaux à l'homme, augmente et de façon exponentielle. Avec l'artificialisation des sols, etc., il y a moins d'espace, donc les animaux sont de plus en plus concentrés avec l'homme. Nous, on n'arrête pas de manger des conneries. Enfin, moi, je suis allé il y a longtemps sur le marché de Pékin, on m'a proposé de manger des trucs. Bon. Bon, il faut comprendre d'où viennent les maladies, il n'y a pas à chercher loin. Le nombre de zoonoses est en augmentation. Donc typiquement, si les gens n'arrivent pas vraiment à faire le lien entre les deux, si on continue et qu'il n'y a pas de changement, ce que je te dis, c'est l'IPS, c'est en gros, c'est le GIEC, mais sur la biodiversité, qui annonce ça dans tout leur rapport. Donc on le sait, c'est écrit depuis des années, que le nombre de maladies de zoonoses vont augmenter. Donc en gros, si ça, ça ne motive pas les gens à changer, ça veut dire que le Covid, et c'est pas fini, ne vous a pas suffi, et ça va augmenter le nombre, et ça peut devenir beaucoup plus létal surtout. Parce que le Covid, quoi qu'on en dise, oui, il y a eu des millions de morts, mais on pourrait avoir des maladies là, qui seraient beaucoup plus graves. Bon, moi en tout cas, ça m'enchante pas. Donc j'ai déjà modifié mon train de vie, et c'est pour ça que j'alerte dessus, parce que, et les scientifiques le font, certains politiques le font, mais on est, on a devant nous des choses pas bonne du tout, mais on a encore le temps, j'insiste là-dessus, désolé de te couper, On a encore le temps, et d'un point de vue climatique, et d'un point de vue là, pour la biodiversité, d'agir. Il n'y a pas de « c'est trop tard » en fait.
Il y a aussi ce point, enfin c'est là où je vais t'emmener, mais qui est que, en fait on parle d'environnement, mais l'environnement, on en fait partie, en fait c'est un mot, enfin c'est problématique dans le vocabulaire que l'on a, on n'a pas vraiment le choix, mais on utilise le mot environnement comme quelque chose qui est à l'extérieur de nous-mêmes. Et du coup, par définition, on a du mal à comprendre qu'en fait, nous sommes partie de l'environnement. Donc, c'est pas un truc à l'extérieur. Et donc, par définition, si on enlève le lion, les moucherons, tu vois, on est bien content quand on conduit de plus avoir plein de moucherons sur le pare-brise. Mais en fait, ça a un impact parce que c'est de la nourriture pour les oiseaux. Donc, s'il y a moins d'oiseaux, il y a etc., etc., etc. Et en fait, on fait partie d'un écosystème qui est en équilibre. Et si tu les enlèves, eh ben, en fait, il n'y a plus d'équilibre. Mmh. Et donc, pour nous, ça peut avoir des conséquences qu'on ne comprend même pas, en fait, en réalité, mais qui peuvent être très graves. Typiquement, il y a, je ne sais pas si tu veux prendre l'exemple des guêpes, pas des guêpes, des abeilles, en Californie, où ils ont créé des petits robots pour remplacer les abeilles, où ils ont importé des abeilles, je ne sais plus exactement ce qu'ils ont fait. Mais...
J'ai vu, non, mais on est. Enfin, oui, j'ai le sourire, mais je ris jaune. Je vois ça. Et le pire, c'est qu'une fois que tu commences à avoir de l'audience, tous les jours, on m'envoie les pires trucs d'Internet pour me dire « Bon pote, est-ce que tu as vu ça ?» Oui, maintenant, je l'ai vu. Mais effectivement, oui, on parle de ça et il faut vraiment comprendre que tout est lié. Donc, c'est un système. Il faut comprendre qu'en fait, si tu enlèves... C'est comme un château de cartes. Tu enlèves une carte, tout tombe. C'est comme ça qu'il faut voir la biodiversité. T'enlèves une certaine espèce, l'autre espèce peut être en danger ou disparaître, etc. Et c'est en chaîne. Donc on a besoin de tout ça. Tu parlais de Californie cet été, ils ont quand même mis 17 millions de saumons dans des camions parce qu'il n'y avait plus d'eau dans les rivières. Ils ont pris les saumons, ils les ont mis dans des camions, ils les ont mis dans d'autres rivières à des centaines de kilomètres à cause des sécheresses. Je veux dire qu'il y a un moment, on devrait prendre 3 secondes de recul et se dire « putain, on est mal ». Mais non, tranquille, on a parlé de Messi, on a parlé de Zemmour, immigration, nanana, voilà, c'est là où on en est le débat, quoi.
Alors effectivement, je trouve ça assez grave que les médias... En fait, c'est assez étonnant que les médias, de manière générale, mais les politiques, évidemment, prennent ce sujet comme ils prennent, je sais pas, le chômage, l'économie, tu vois, j'en sais rien, la croissance, la fameuse. Et en fait, l'écologie arrive après. Alors qu'en fait, tu vois, moi je suis un marketeur à l'origine, donc quand tu te poses la question de qu'est-ce que veulent les humains, bah d'abord ils veulent survivre. Enfin, il me semble, ils veulent vivre dans des bonnes conditions. A priori, c'est le premier truc que tu veux. Et c'est vrai que c'est très étrange que ça arrive pas en amont. Et je pense que ça sensibilise pas suffisamment, ou les gens n'ont pas assez de compréhension des problématiques. Mais après, il y a une question qui me semble importante, c'est qu'est-ce que je peux faire à mon niveau, puisque dans un contexte où, global, en fait, c'est-à-dire, évidemment, il n'y a pas de frontières de CO2, qu'est-ce que ça peut changer si moi je fais ci ou moi je fais ça? Je me donne bonne conscience, tu vois, je ne mange plus de viande. Et en fait, je crois que les gens qui ne mangent plus de viande, qui font du vélo, etc., ils le font quand même pas mal pour leur corps, c'est-à-dire qu'ils le font pour eux, dans cette logique un peu individualiste, et moins, finalement, pour un petit peu aussi pour la planète, tu vois, entre guillemets. Je déteste cette expression de pour la planète, mais tu vois ce que je veux dire. Et moins... Vas-y.
Il y a deux points. J'ai presque oublié le premier. Je vais répondre déjà au deuxième point. Tu as entièrement raison. On peut être écolo et égoïste. Ça veut dire qu'il y a plein de co-bénéfices à devenir écolo. Typiquement, au lieu de prendre le métro ou le taxi, etc., j'ai commencé, moi, à prendre beaucoup plus le vélo. Et en fait, déjà, je suis en meilleure santé. J'élimine les pizzas, ça, c'est important. Et deux, tu peux même gagner du temps et de l'argent, et pour plein de raisons, etc. Donc en fait, on a plein de raisons de ne pas attendre. C'est ça, le free rider. Enfin, on parle du free rider. C'est un des discours de l'inaction climatique. Il y en a 12. Ça, c'est une des excuses. Oui, mais si jamais nous, on baisse les émissions d'abord, bah, les autres vont profiter de nous, etc. Bon, en fait, c'est pas forcément vrai. Il y a plein d'avantages à ce que nous, la France, ou nous, Français, on s'adapte à Paris. Typiquement, en 2019, j'étais en costume quand il a fait 42,3 degrés ou un truc comme ça. Et là, on sait que dans les 30 prochaines années, en gros, on va se taper des pointes de chaleur à 50 degrés. Il y a plein d'avantages à ne pas attendre et à végétaliser dans Paris, tu vois. Enfin, qui a envie qu'il fasse 52 degrés ? C'est un enfer, 50 degrés dans Paris. Donc moi, typiquement, j'ai pas envie. J'aimerais bien que Anne Hidalgo, elle mette quelques arbres, qu'on puisse respirer. C'est bon pour la pollution, c'est bon. Enfin là, tu vois, il y a plein d'avantages. Et d'un point de vue, ça me revient maintenant. Tu as entièrement raison, on peut à la fois aussi être égoïste, mais on sait que le changement climatique n'est pas qu'un problème physique, c'est aussi un problème politique et un problème moral. Il y a un problème éthique. Tu peux le prendre d'un point de vue égoïste et toi te dire, bon, au moins je peux me regarder dans la glace, je sais que ça part un peu en sucette, mais moi au moins, entre parenthèses, j'aurais fait ma part. C'est, dans mon cas personnel, ce qui m'a fait arrêter la viande. Tu m'aurais connu il y a quelques années, tu me retrouvais dans Paris en train de manger un double burger, et ouais, avec un sourire d'un enfant qui va à Disneyland, hein, c'est le même niveau. Mais quand j'ai vu l'impact que ça avait, j'ai arrêté la viande. Du jour au lendemain. Et je me suis dit, on va voir combien de temps je tiens. Bon, ça fait 3 ans. Je suis à peu près vivant. Donc, ça va.
Ouais. J'ai eu une discussion avec une personne de Carbone 4 qui disait, sur cette question de l'éthique, et de dire, oui, mais la Chine, les États-Unis, eux, ils continuent, en réalité, leur pollution. Et donc, nous, la France, on est un tout petit pays. Et il disait, mais quand tu éduques tes enfants, tu réfléchis pas... Tu leur donnes les valeurs que toi, tu possèdes. Et donc, tu dis, bah voilà, moi, mon éthique, c'est ça. Et tu donnes pas l'éthique, tu ne transmets pas une éthique en fonction de ce que les autres font avec leurs enfants. En fait, tu donnes, toi, ton éthique et pas l'éthique que font les autres. Est-ce que ça résonne chez toi aussi ou pas ?
Bien sûr. J'ai envie de... Enfin, désolé pour la minute philosophie, mais de citer Kant dans son traité sur l'éducation, qui dit qu'il faut pas éduquer ses enfants pour les adapter à ce monde, mais il faut éduquer les enfants pour qu'ils puissent le changer. Donc... Moi, le monde là tel qu'il est, en tout cas le pays, la France tel qu'il est, je trouve qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Moi, je suis un privilégié. J'ai eu la chance de faire voilà, des bonnes études et de vraiment n'avoir jamais vraiment eu un manque d'argent, etc. J'essaye de le rendre à la société. Enfin, tu peux très bien éduquer tes enfants comme ça. Concernant cette excuse, en fait, la France, c'est que 1% des émissions, les Chinois, nanana. Zemmour vient encore... Bon, désolé, je parle de Zemmour, mais il l'a encore fait ce matin. Moi, c'est pas le monde que j'ai envie de sauver, c'est la France. Bon, lui, mon petit Eric, en fait, il pense que le CO2, il y a une frontière, tu sais, il s'arrête à la frontière et il pense que ça passe pas. C'est pas comme ça que ça marche. Deuxièmement, si on devait attendre que tous les Américains deviennent des Amish ou que les Chinois deviennent tous exemplaires, ça n'arrivera pas. On peut très bien nous commencer et montrer l'exemple. Et troisièmement, le changement climatique, c'est basé sur les émissions historiques. Et en fait, eux commencent à polluer. Certains pays, pardon, l'Inde, la Chine commence maintenant à vraiment émettre. Bon, la Chine est le premier émetteur aujourd'hui. Mais historiquement, c'est pas le cas. Et nous, on a profité, on a émis pendant plus de 100 ans. Donc c'est d'abord à nous de faire des efforts avant de dire et de montrer l'exemple, avant de dire bon, toi, en fait, moi j'ai profité pendant 100 ans, toi t'aimerais bien profiter de 10 ans ? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu imagines que, puis surtout avec le poids politique et géopolitique qu'ont les Chinois aujourd'hui, bon, ils vont te dire bon, toi tu plaisantes, mon petit Emmanuel.
Est-ce que tu crois à la surpopulation mondiale ? C'est-à-dire, parce que. En fait, il y a une vraie question. On va parler politique, hein, décidément.
Malthus.
Non, Sarkozy.
Ah,
qui
oui,
disait
oui,
que bien. Majoritairement, la problématique, c'était une problématique de population. Moi, dans ma compréhension, même si je déteste l'expression, encore une fois, mais l'Africain moyen, il pollue. Ça dépend les pays, évidemment. Et voilà, c'est très, très relatif, tout ça. Mais. Il pollue très peu, c'est une demi-tonne en moyenne, je crois, de mémoire. Donc tu parlais de 2 tonnes, donc ils sont à 4 fois moins que... Voilà, mais ils sont surtout à 20 fois moins que nous. Sachant que nous, dans nos émissions, et c'est là où on peut rejoindre aussi la partie politique avec la migration climatique, parce que parce que nous, on consomme de la manière dont on consomme, on rend la vie impossible. Voilà, par exemple, Madagascar, en ce moment, où il n'y a plus d'eau, parce qu'il ne pleut plus, donc il n'y a plus de nourriture, donc ils sont en train de mourir. En fait, on rend la vie impossible à ces gens-là par notre mode de consommation. Donc, ils sont obligés de migrer. Et nous, après, derrière, on a des aimants qui disent « Ah ben non, pas de migration ». Est-ce que tu crois, toi, à la surpopulation mondiale, ou est-ce que la problématique, c'est une surpopulation occidentale ? Enfin, occidentale au sens large, hein, je veux dire capitaliste, etc. Ouais.
Alors, c'est des réflexions qui, en plus, gagnent les débats en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, hein, personnellement, en privé, évidemment, pour me dire, à votre avis, est-ce que je peux faire un enfant ? Bon, déjà, c'est pas à moi de répondre. Mais c'est une vraie question qui arrive en ce moment. Un ami vient de publier un livre, d'ailleurs, là-dessus. Tu as raison sur la logique. En fait, on peut pas. Il y a des pays d'Afrique qui sont vraiment très différents, mais typiquement, on parle des malgaches. C'est en moyenne un tout petit peu moins d'une tonne par an. L'américain est à 17 tonnes. Donc en fait, l'américain émet 17 fois plus et l'américain est en train de dire oui, bon, je crois qu'il y a trop d'Africains, tu vois. Bon, il se moque du monde. C'est pareil, si le français pointait du doigt les Africains, ce serait se moquer du monde. Historiquement, le continent africain compte pour 3,5% des émissions. En fait, l'Europe, c'est 20%, les États-Unis, c'est du 25 ou 30% de mémoire. Enfin, en fait, arrêtez, s'il vous plaît. Enfin, voilà. Le deuxième point que tu as mis en exergue, et c'est très très important, c'est l'injustice, c'est ce qu'on appelle l'injustice climatique, climate justice. C'est ce que les gens essayent de mettre en avant. Ça veut dire que certains ont pollué, certains continuent de beaucoup polluer. Et c'est les autres qui vont souffrir. C'est ceux qui émettent le moins qui souffrent en premier. Donc typiquement, je sors un exemple qui est très fréquent, parmi un peu les gens qui ont de l'argent, c'est d'aller en Asie du Sud-Est. Ils vont en Asie du Sud-Est, ils vont au Cambodge pour visiter des temples, etc. Maintenant, je leur dis, si vous faites ça, en gros, votre aller-retour vous consomme votre budget carbone à l'année. Et deux, le Cambodge a plus de degrés de réchauffement climatique. Il y a la moitié du pays qui disparaît sous les eaux. En général, ça calme. Vraiment, ça calme. Et le troisièmement, tu as entièrement raison que, en tout cas, le mode de vie américain, puisqu'on parle des Américains et je connais un petit peu le pays, ils sont pas du tout dans la sobriété, hein, c'est pas du tout le délire sur place. J'ai mes meilleurs amis et mon meilleur ami qui habite à Miami. La sobriété, c'est un gros mot. Hein,
c'est un concept.
Bon, c'est un concept. Il en a entendu parler, mais il y croit pas.
Ouais,
c'est très compliqué. Quand tu vois, il y a eu la COP26 où... En général, Elon Musk et Jeff Bezos qui ont le culot. Donc les mecs ont quand même le culot de dire aux gens, voilà, moi j'ai des solutions pour le changement climatique, mais les types s'envoient en l'air dans l'espace, ils ont des yachts plus longs. T'as vu à Rotterdam, là, il y a eu une news il y a deux jours, il faut démonter un pont pour que le yacht...
Je pensais que c'était un autre pays, mais...
C'est à Rotterdam, ouais. Pour que le yacht de Jeff Bezos puisse passer. Mais Jeff, tu te moques de monde, là, c'est pas possible.
C'est un voilier, tu remarques.
Oui, il y a trois voiles, mais bon.
Une question qu'on me pose tout le temps... et qui, à mon avis, du coup, tout le monde doit se poser la question, nécessairement, parce qu'on me la pose régulièrement. Par où je commence ? Qu'est-ce qui est le plus important dans ma consommation au quotidien pour réduire mon empreinte ?
Alors, ça dépend. En fait, c'est dommage. J'aimerais vraiment qu'on prenne toi comme exemple. Ce serait, je pense, la meilleure des choses. Ça dépend évidemment des personnes. Donc, 10 est une moyenne. Typiquement, les gens qui prennent l'avion, réduisez l'avion instantanément. C'est vraiment... Je pense que vous allez le voir, en fait, il faut faire le test, ça prend vraiment moins de 5 minutes, tu vois tout de suite le résultat, et tu vois, en fait, il y a une barre pour les gens qui prennent l'avion, ça prend 50%, 60%, 70%. Si tu ne prends pas l'avion, après, il faut regarder la voiture, les transports, en gros, c'est 25%, la nourriture, végétaliser absolument, le bœuf et la viande rouge est ce qu'il y a de pire. Ensuite, la viande... Et ensuite, bien sûr, le poisson, essayer de réduire également. Et le chauffage. Le chauffage est vraiment un gros problème. Les gens qui se chauffent... je passe le bonjour à un de mes amis qui chauffe à 25 chez lui, qui est en t-shirt en plein mois de février. Il faut arrêter. c'est un gros problème. Mais bien sûr, ça va... Ensuite, c'est pour ça que je mets la pression. Là, on parle vraiment d'efforts individuels, donc c'est bien de le savoir. Mais en fait, les gens qui vont faire le test vont très vite se rendre compte qu'il y a besoin de changement de système, d'infrastructure, d'investir. Donc, il faut ensuite aller mettre la pression au niveau local ou national. Typiquement, il y a des passoires thermiques en France. J'ai une personne de ma famille qui se chauffe encore dans un truc tellement pourri au fuel, etc. Ça, il faut que l'État puisse aider, en fait.
On va y venir à la violence
systémique. Et souvenir, oui.
Deuxième question, du coup, enfin deuxième question, j'en ai posé quelques-unes, mais donc on se dit la principale manière de réduire, c'est l'avion, puis le transport, puis la nourriture, et donc ça va permettre au fur et à mesure, voilà. Qu'est-ce que tu réponds quand on te dit, bah oui, mais tout ça, c'est de l'écologie punitive. T'as le droit de rigoler, hein.
Oui, parce qu'en fait, j'ai écrit un article sur ce sujet. L'écologie punitive est une expression uniquement utilisée par des personnes de droite ou d'extrême droite. Sinon, en fait, cette expression, elle est vraiment catégorisée. Elle peut apparaître comme punitive si tu ne te rends pas compte des conséquences du changement climatique. En fait, elle est punitive pour les gens qui ont vraiment les moyens, qui vivent sans limite. Typiquement, Jean-Michel qui prend l'avion 10 fois par an. Si on lui dit, bah non, tu vas devoir réduire à 1 ou 2 fois, pour lui, ce sera punitif. Mais en l'occurrence, et malheureusement pour une majorité des Français, les canicules, on va tous les subir. Et c'est des millions de personnes qui vont en souffrir. Donc ça, typiquement, si tu veux éviter ça, alors, encore une fois, soit tu limites, soit tu acceptes qu'il y ait une canicule l'été. Mais les canicules, si c'est à plus de degrés, donc potentiellement en 2040, ça c'est un chiffre qui choque en général. Aujourd'hui, les canicules durent entre 4 et 5 jours. Potentiellement, la canicule peut durer 20 jours. 20 jours, ok ? Avec des pointes de chaleur à 50 degrés. Donc ça n'a rien à voir en fait. On parle vraiment d'un autre monde. Et ça, et je ne te parle pas à la fin du siècle, hein. Je te parle vraiment de ce qui peut se passer dans 10 à 20 ans. Donc, il faut agir, et vraiment agir dès maintenant pour éviter ça. C'est un arbitrage. Encore une fois, c'est une question politique, éthique et de liberté. Soit tu veux, ou soit tout le monde, donc ça doit être une décision démocratique, mais soit tout le monde décide de continuer à vivre YOLO, on s'en fout, pas de règles. Ok, très bien. Au moins, tout le monde, c'est une décision démocratique, mais sachez qu'on va avoir ça, qu'on aura inondation, qu'on aura sécheresse, qu'il y aura des risques sur ce qu'on mange, etc. Donc, encore une fois, c'est un choix. Mais je pense que la majorité des Français, une fois qu'ils ont été informés, il y a eu la Convention citoyenne pour le climat récemment, 150 personnes qui ne connaissaient pas vraiment les enjeux ni les ordres de grandeur, etc. Une fois que ces personnes ont été formées, elles ont été à même ensuite de faire 150 propositions pour changer. Et elles ont été beaucoup plus loin que ce que propose notre gouvernement actuel. Donc en fait, l'écologie punitive, encore une fois, je pense que ça peut être potentiellement des personnes qui ne sont pas au courant et qui ça s'apparente comme à une punition. Mais si on ne fait rien, voilà l'autre punition. Et l'autre punition, bon, moi je trouve qu'elle fait beaucoup plus mal que de décider aujourd'hui démocratiquement de notre avenir. Ouais.
Je te disais, quand on préparait, je te disais que peut-être que l'une des mesures politiques qui serait la plus intéressante, à mon avis, ça serait une formation obligatoire à l'écologie. Parce qu'effectivement, quand on regarde ce qui s'est passé, en fait, quand tu formes des gens qui ne connaissent rien au sujet, a priori, en fait, ils comprennent. Les gens ne sont pas idiots. Est-ce que ça ne serait pas une très bonne mesure de se dire, bah, si tu veux continuer à avoir ton permis de conduire, par exemple, tu vois, ça peut être un bon indicateur. Parce que si on faisait comme le service militaire, ça arriverait que pour les jeunes, donc ça marche moins. Mais est-ce que pour continuer à conduire, il faudrait que tu aies cette formation de une semaine financé par l'État, tu vois, nécessairement, sur la problématique écologique. Alors, je ne sais pas si en une semaine, tu peux être formé à large, mais tu vois, au moins comprendre les grands tenants et aboutissants du sujet.
Je te rejoins entièrement, et c'est même prévu, en fait, par l'accord de Paris. C'est un des articles, l'éducation, je crois que c'est le 12 ou le 14, qui dit qu'en fait, l'éducation est clé et ça doit devenir obligatoire. Donc, c'est en train de venir dans les écoles. Je discute pas mal avec des profs et primaires et collèges, lycées et universités, c'est en train de venir, donc c'est en train de bouger. En revanche, là, il faut tellement agir vite que ça ne va pas suffire.
Non, il faut former les adultes. Moi, je te parlais des adultes. Hein.
Alors, oui, voilà. Donc là, je suis entièrement d'accord avec toi. En entreprise, il faut bien comprendre, et c'est une des questions que je pourrais te poser, il faut bien comprendre qu'en fait, le climat et les événements à venir vont concerner tout le monde, sans exception. Je réfléchis parce que j'écris un peu sur tout. Cite-moi une entreprise ou un business qui ne sera pas touché par ça. J'en connais aucun. J'en connais aucun. Donc, si ça te vient, je suis preneur, hein, ce serait intéressant. Mais en fait, j'en connais pas. Donc, il faut bien que tout le monde comprenne ça. Ça va plus toucher certaines personnes que d'autres, bien sûr, mais ça va vraiment concerner tout le monde. Donc là, je te rejoins, mais encore une fois, c'est pour ça qu'on a besoin des pouvoirs publics et ça devrait devenir obligatoire. On a essayé de pousser et on est en train de le faire. C'est pas officiel, mais je vais quand même en parler. Il y a des climatologues qui vont pas mal à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et qui poussent sur ces sujets-là. Parce qu'ils veulent que les politiques s'emparent de ces sujets et qu'on en parle beaucoup plus. Là, on doit voter pour un nouveau président ou présidente dans 2 mois. On n'en parle pas. On n'en parle pas du tout.
On en parle peu. On en parle un peu.
On en parle peu. 1%.
C'est ça, 1%.
1%, alors que ça va... vraiment, moi, je fais le test, les gens sont à l'ouest, mais c'est même pas... Moi, jamais, je n'en veux, et c'est bien que tu aies dit, en fait, les gens ne sont pas bêtes. Et effectivement, les gens ne sont pas bêtes. Et une fois que moi, je discute avec les gens, ça les intéresse. Je n'ai jamais rencontré une personne qui m'a dit « Bon, en fait, j'en ai rien à foutre de ton truc. » Ça n'est jamais arrivé. Ça va arriver, mais dans l'ensemble, les gens sont intéressés. Il faut trouver des angles différents. Je sais qu'on en a déjà parlé. Il y a des personnes, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, il y a des gens sensibles aux chiffres. Il y a des gens sensibles à la culture. Moi, j'insiste vraiment en ce moment en disant arrêtez avec vos chiffres de mathématiques et tout. Les gens n'en ont rien à foutre. Ça va passer par la culture, par l'art et par d'autres choses. C'est pour ça qu'il y a eu Don't Look Up qui est sorti sur Netflix il y a 2 mois maintenant. Oui, c'est un truc grand public. Oui, c'est Netflix, nanana. Mais il y a de l'humour. Bon, moi, ça ne m'a pas trop fait rire parce que j'avais l'impression de vivre mon quotidien, mais... L'humour, c'est une arme fatale. On a besoin de l'humour pour ça, typiquement.
En quoi, Don't Look Up, c'est réaliste ?
C'est réaliste parce qu'il y a une instrumentalisation et une moquerie. Si en fait, je pourrais t'envoyer plein d'extraits, mais en fait, il y a des scientifiques qui sont passés sur des plateaux télé. Ils ont été moqués. Il y a une journaliste, Salomé Sacquet, récemment, elle est entourée de boomers sur le plateau, Jean Quatremer, pour ne pas le citer. Il se moque d'elle. Elle est en train de dire, en fait, on va vivre des effondrements, etc. Et lui, il est à côté, il éclate de rire. Mais tu sais, on est là. Bon. Et 2 mois plus tard, t'as Don't Look Up qui sort. C'était vraiment, tu transposes les deux scènes, tu vis exactement la même.
Mais en même temps, il n'y a pas une météorite qui arrive sur la planète.
Alors, mais j'ai écrit un article sur Don't Look Up qui explique ça, justement, pour dire, attention, il y a plein de parallèles. Oui, il y a un parallèle avec le changement climatique ou la crise climatique. Mais attention. Il y a quand même beaucoup de différences. Et la première des choses, c'est que la comète, tu passes de 0, enfin de 100% à 0, il n'y a plus personne. Le changement climatique, c'est très progressif. La comète, elle va arriver. Le changement climatique, il est déjà là. Enfin, il y a plein de choses, effectivement.
Est-ce que tu connais l'expérience de la grenouille dans la casserole ?
Bien sûr.
Tu peux l'expliquer ?
Enfin, je pense que tu l'expliqueras mieux que moi, mais en ce moment, on est une belle grenouille. Je te laisse expliquer.
Non, mais en fait, le principe, c'est de dire que si tu mets une grenouille dans de l'eau chaude, dans de l'eau bouillante, elle va sortir tout de suite. Si tu mets une grenouille dans de l'eau froide, que tu la mets sur le feu, que tu laisses l'eau bouillir, elle va mourir dans la casserole. Et c'est précisément ce qui est en train de se passer.
Ah, mais là, on est des grenouilles et on est devant Netflix. Oui.
Est-ce que tu t'intéresses aux neurosciences ou pas ? J'ai reçu, entre autres, Albert Mukaiber.
Ouais.
Qui explique qu'en fait, une des problématiques avec l'écologie, c'est l'incapacité du cerveau à se projeter. C'est-à-dire qu'en fait, on a une capacité d'abstraction en tant qu'humain à envisager le demain. Mais en fait, fondamentalement, c'est pour ça que c'est assez rigolo quand les gens disent il faut vivre au présent, etc. Parce que fondamentalement, on ne sait faire que ça. On ne sait faire que vivre au présent. Et on n'a pas d'empathie de groupe, ça n'existe pas. Tu n'as une empathie envers quelqu'un, tu n'as pas une empathie de groupe, ça n'existe pas. C'est pour ça que quand on dit il y a 100 réfugiés qui sont morts dans un canot, ça te fait de la peine. Mais en réalité, pas vraiment plus que ça, parce que tu connais aucune des personnes, t'as pas les histoires personnelles, tu sais rien d'eux, en fait. Tandis que quand on te parle d'une personne, alors là, ça te touche beaucoup plus, naturellement. Comment on fait pour générer c'est compliqué, hein, mais comment on fait pour générer de l'empathie de groupe et comment on fait pour permettre aux gens de se projeter, sachant que c'est pas un truc naturel dans ton cerveau ?
Je pense. Alors, Albert me contredira. Je pense qu'on est. Enfin, je crois pas qu'il y ait un truc biologique qui fasse que c'est notre cerveau. Soit on est bloqué, mais on peut. Je pense déjà qu'on peut travailler dessus. Et ça me fait penser. Mais je sais qu'Albert en a parlé récemment à Sébastien Boller qui dit que on crame la planète, mais parce qu'on a un striatum qui nous dit en fait non. Il y a des structures sociales qui font que tu as envie de pourrir ton environnement ou non. Il y a aujourd'hui des millions de gens qui vivent sur la planète qui ont transformé effectivement leur environnement, mais leur environnement est soutenable. Le nôtre, là, ce qu'on est en train de faire, il faudrait plusieurs planètes pour pouvoir continuer à vivre comme on vit. Ouais, pour le cerveau, enfin, je veux dire, on peut lutter pour. Je ne sais pas à quel point on peut le faire évoluer, etc. Mais encore une fois, c'est des sensibilités différentes. Et en fait, je fais le parallèle, c'est assez intéressant. C'est la loi du kilomètre, je crois, de mémoire. Mmh. On n'est plus préoccupé par un mort à un kilomètre que 1000 morts à 1000 kilomètres. De mémoire, c'est ça. Mmh. C'est des cours d'éco d'il y a 15 ans, mais tu me corriges.
Non, c'est ça.
J'ai fait le test, là, en parlant d'injustice climatique. Quand je parle de la montée des eaux dans les îles Fidji ou au Cambodge, les gens n'en ont rien à faire. Mmh. Vraiment. En revanche, si tu leur dis, il va se passer ça dans ta vie.
En Bretagne ou...
Voilà, mais ou dans ta ville ou en France, etc. J'ai remarqué que ça touchait beaucoup plus les gens. Et c'est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, avec l'expérience que j'ai maintenant, c'est l'angle que je choisis. Ça veut dire, ok, vous vous en foutez de ce qui se passe à l'autre bout du monde, très bien, mais voilà ce qui se passe pour vous. Et comme les Français sont un peu responsables de ce qui se passe à l'autre bout du monde, bah, j'axe un peu ma communication en disant, ok, c'est à nous de faire des efforts et tout le monde va y gagner, en gros. Voilà.
Une autre question qui me semble importante, on parlait tout à l'heure de vision systémique, donc de système, c'est de se dire, enfin moi c'est une phrase que j'utilise de manière assez régulière, de dire, ben, en fait si on prend les différentes résolutions de l'ONU pour le climat et qu'on les résout une à une, en fait on n'a pas résolu le problème. Parce qu'en fait c'est beaucoup plus complexe que ça. Est-ce que tu peux parler de ça? C'est-à-dire que si on, par exemple on trouve une énergie qui ne génère aucun gaz à effet de serre, on en a déjà un tout petit peu parlé, mais je serais intéressé que tu nous expliques cette vision systémique rapidement.
Tu parles des résolutions de l'ONU, tu parles des ODD, les fameux 17. Ouais. Potentiellement, si tu remplis tous les ODD, tu vis dans une société qui est beaucoup plus soutenable.
Ah oui, c'est sûr.
Sauf qu'ils sont très critiquables, je n'ai pas encore publié dessus. Mais typiquement, le huitième objectif de développement durable, c'est la croissance. Et le développement durable. La croissance aujourd'hui est un problème. Est un problème parce que l'essence de la croissance, c'est qu'on veut toujours plus. Et pour certains pays, effectivement, c'est nécessaire. En tout cas, fonction d'un certain idéal de société. Parce que tout le monde n'est pas appelé à vivre comme des Français. En fait, c'est un choix démocratique. On n'a pas d'ailleurs notre mot à dire sur les autres sociétés. Ils vivent comme ils veulent. Mais typiquement, la croissance aujourd'hui en France, on n'en a plus besoin. Il y a assez d'argent aujourd'hui en France, on n'a pas besoin de plus d'argent, plus de matériel, plus. En fait, ça, c'est fini. Et aujourd'hui, la croissance ne résout pas, depuis au moins 30 ans, les questions de chômage, les questions d'inégalité, ces questions-là, et de pauvreté.
C'est intéressant que tu développes quand même, parce que je pense qu'on nous nourrit tellement, pour le coup, dans les médias, à cette idée de la croissance, c'est quasiment le chiffre tu vois, qu'on suit au quotidien. Ah oui, il y a eu 3% de croissance, il y a 2% de croissance, on prévoit X% de croissance, etc., etc. Et là, toi, tu dis, en fait, il n'y a plus besoin de croissance. Est-ce que tu peux expliciter ça? Parce qu'en fait...
T'as entièrement raison. C'est la politique. Enfin, Macron ne parle que de ça.
Tout le monde.
Bruno Le Maire, il ne parle que de ça. Et il a eu le culot récemment de dire qu'il y avait eu un record de croissance de 7%. Que c'était historique, que ce n'était pas arrivé depuis 60 ans. Mais Bruno, je te rappelle qu'il y a eu le Covid l'année dernière et qu'on a perdu 8%. En fait, bon, même mon neveu qui a 14 ans, il a vu que tu arnaquais tout le monde. Arrête, c'est bon. Pardon, désolé. Mais... Bon, lui, il se moque vraiment du monde. Et en fait, il faut changer de prisme. Ça, le PIB ou la croissance du PIB, c'est un indicateur économique qui est bon pour le XXe siècle. Aujourd'hui,
Qui a été créé au XXe siècle.
Il y a d'autres enjeux aujourd'hui. Il faut une économie écologique. Ça veut dire que c'est une économie qui respecte les limites planétaires. Il faut qu'on arrête de cramer la moitié de la planète, tu vois, pour pouvoir faire du jet ski tranquille ou s'envoler à l'autre bout du monde quand on veut, etc. Ce n'est pas soutenable. Donc, oui, il faut changer, ouais.
Mais là, ce que tu disais, et ça c'est vachement intéressant, c'est de dire en fait on n'a plus besoin de croissance. Ça, c'est un point qui m'intéresse parce que...
Alors effectivement, bon, c'est ce que je pousse, on peut parler des croissances après, mais... Il y a assez de richesse aujourd'hui en France. C'est juste que, premièrement, elle est mal. Enfin, c'est surtout qu'elle est mal répartie. Il y a des gens, j'en ai autour de moi, et ça me permet d'avoir vraiment les pieds sur terre, qui travaillent, mais qui sont des travailleurs pauvres, parce qu'ils doivent quand même recevoir des aides, soit de l'État, etc. Soit moi, personnellement, j'aide des personnes alors qu'elles travaillent. Donc, ça, c'est pas normal. À partir du moment où tu travailles, tu devrais avoir accès, enfin, pouvoir te loger et te nourrir et te déplacer dans la mesure du possible. Ça devrait être la base, en fait. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire aujourd'hui. Et de l'autre côté, en même temps, le fameux en même temps d'Emmanuel Macron, les milliardaires ont fait plus 69%, les milliardaires français ont fait plus 69% sur leur richesse, rapport Oxfam de la semaine dernière, dans les 19 mois là, les 19 derniers mois. Mais on marche sur la tête. Il y a des mecs qui sont déjà milliardaires, ils n'ont même pas le temps de dépenser leur argent. Et tu as des gens qui travaillent et qui crèvent de faim. Donc, encore une fois, il y a assez de richesse. Il faut juste que Bernard Arnault et les autres et ses copains partagent un peu plus leurs richesses qui, en plus, ont été accumulées sur le travail des autres. Bon, bref, on ne peut pas... Voilà. Il faut juste, voilà, mieux répartir. Il y a assez, en France, de biens. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas vraiment matérialiste, à part les livres, je suis un peu geekos là-dessus, mais j'ai largement assez. On parlait des ordres de grandeur tout à l'heure. On a en moyenne, Julia Fort est hyper intéressante si tu peux l'interviewer, qui a la marque Loom, on a en moyenne 3 fois trop de vêtements en France. Ils en faudraient 3 fois moins. Bon, moi elle m'a dit ça, je suis allé regarder ma garde-robe, effectivement il y a des vêtements que je porte quasiment jamais.
Moi ce que j'ai remarqué sur les vêtements, c'est que tu en achètes autant que tes armoires peuvent en contenir. Je sais pas si t'as déjà réalisé ça.
C'est une bonne remarque. C'est pas vrai pour les livres parce que là ça déborde.
Non, pour les livres, mais... c'est pas vrai. Mais pour les fringues, moi j'ai remarqué que si tu réduis ton armoire, et ben en fait t'as moins de fringues.
Putain, c'est un vrai. Je vais rentrer chez moi, je vais vérifier si ça se.
Tu vois, ça se vérifie assez bien. On n'aime pas le vide. Je crois qu'on n'aime pas trop le vide. On a couvert pas mal de sujets. J'aimerais bien revenir sur cette idée de pensée systémique, si tu veux bien, rapidement, mais que tu expliques un petit peu comment ça fonctionne et ce que c'est. Parce que effectivement, moi je crois, et tu vois, c'est ce que je défends dans mon bouquin, hein, qu'il faut changer de système. Et on va revenir sur cette idée d'écologie punitive aussi, parce que moi je crois pas que ce soit punitif, mais ça c'est une autre question.
Non, ça veut. Bah, on nous a toujours appris à réfléchir dans un système un peu fermé. Où tu sais, il y a la fameuse phrase que tu apprends quand tu prends des cours de maths en sixième qui te disent « toute chose égale par ailleurs ». Mais en fait, ça marche jamais comme ça. Il y a une lecture que je recommande vraiment, c'est « Introduction à la pensée complexe » d'Edgar Morin. C'est pas si long que ça, mais c'est indispensable. Que comprendre que, en fait, tout est complexe, il n'y a rien de simple. Le changement climatique, alors j'ai écrit un article qui s'appelle « Le jet-tout-comprisme ». Parce qu'il y a un petit danger là-dessus aussi, c'est quand tu découvres ces sujets... Tu lis 2 heures ou tu vois 2 conférences, tu dis « Oh putain, c'est la merde, mais j'ai la solution. » Non, non, Jean-Michou, t'as rien compris. Et crois-moi, j'y passe 15 heures par jour. Je n'ai même pas la prétention de dire que j'ai compris 1% de ce qui se passe. Donc, il faut faire vraiment très attention à ça. Et c'est vraiment complexe. Une fois que là, j'ai travaillé sur le sujet des points de bascule en Antarctique, en Amazonie, la barrière, enfin voilà, les coraux, etc. C'est tellement complexe, il faut... Enfin voilà, c'est vraiment un sentiment d'humilité. Il y a des chercheurs qui travaillent dessus toute l'année. Toute leur vie, ils travaillent sur ça. Eux sont vraiment d'une humilité remarquable. Et de l'autre côté, tu vois Laurent Alexandre ou d'autres types comme ça qui se ramènent à la télé sur tous les sujets. Hein. Finance, le Covid, l'économie. Les mecs sont experts sur tous les sujets. Bon, on a une chance, on n'a vraiment que des prix Nobel en France, tu vois. Mais voilà, il faut vraiment... comprendre que tout est complexe, tout est lié, il n'y a rien, comme le climat, typiquement, on parle, aujourd'hui, le climat est une catégorie à part entière, mais en fait, le climat concerne tous les pans de la société. J'ai écouté pas mal de tes podcasts, le dernier en date est, je crois, de Tariq Krim, qui parle de numérique, etc., mais le climat va toucher les numériques, le bien data sûr. Center, etc. J'en ai, on pourrait...
Tu veux nous parler de pollution numérique ? Je crois que c'est aussi un truc que les gens n'ont... En fait, c'est assez intéressant, je suis en train de lire un bouquin sur le sujet, d'ailleurs, ce qu'on appelle la jeunesse écologique est aussi la jeunesse qui consomme à mort les réseaux. Et donc, de manière assez étonnante, étonnante plus ou moins, mais c'est-à-dire qu'ils critiquent énormément et en même temps, ils sont beaucoup sur Internet et utilisent, tu vois, tout ce qui est disponible, voire ils écoutent de la musique en streamant de la vidéo sur YouTube, tu vois, un truc qui est gratuit, mais bon, qui n'est pas sans impact. Et en fait, le digital a un impact extrêmement important, alors qu'on ne voit pas, effectivement. Alors déjà, peut-être que tu peux nous expliquer rapidement, c'est pas ton expertise, mais pourquoi ça a un impact et comment on peut le réduire. Je ferai un épisode spécifique là-dessus, mais...
En une phrase, c'est parce que la data, forcément, ce que vous regardez, c'est bien stocké quelque part. Et ces data centers, il faut bien que ça tourne avec de l'énergie, donc de l'électricité. Cette électricité, elle est plus ou moins carbonée. Évidemment, si c'est en Chine, c'est à majorité encore pour l'instant de charbon, qui est une catastrophe climatique. En France, c'est un peu moins grave. En Allemagne, c'est merdique, tu vois. Donc, ça, c'est pour... voilà. En ordre de grandeur, si vous devez retenir... Allez, en deux phrases. La première, c'est que c'est à l'échelle... sur la Terre, les émissions du numérique, c'est 4%. Et c'est vraiment... Ça va de façon exponentielle.
Crescendo.
Donc, c'est 4%. Et le deuxième truc, c'est qu'en France, comme on a une électricité décarbonée, typiquement... Le numérique, c'est surtout les appareils qu'on achète. C'est entre 70 et 80%. Ça veut dire que l'iPhone, c'est pas vraiment l'utilisation de l'iPhone qui pollue ou qui émet des émissions, mais c'est surtout l'achat. Donc, la première des choses que vous devez retenir, si vous n'avez pas le temps d'aller lire les rapports, etc., c'est de prolonger la vie de nos appareils numériques. Et plus la taille de l'écran est importante, plus ça pollue. C'est vraiment hyper important. Donc, moi, j'ai pas de télé chez moi, mais si vous avez des écrans gigantesques, etc., changez-les le moins souvent possible et réduisez la taille de vos télés. Voilà. C'est aussi simple que ça.
Je te disais tout à l'heure, on parlait d'écologie punitive. Moi, mon point de vue, et c'est la manière dont j'essaye de l'envisager pour moi-même d'ailleurs, c'est de me dire, il faut que j'arrive à modifier ma perception du succès, du bonheur, ce que je suis en train de faire, évidemment, et ce que j'ai déjà bien débuté à faire, pour me rendre compte que ralentir, parce que tu vois, si on n'utilise pas l'avion, si on utilise moins la voiture, voilà, ralentir, être dans une forme de déconsommation, on pourra parler aussi du féminisme, parce que pour moi, c'est lié. En fait, ça... C'est un autre mode de vie, mais qui est pas moins bien, qui est à la limite, enfin qui est même pas à la limite, qui est même mieux en réalité dans l'expérience, et qui pourtant est beaucoup moins carboné.
Bien sûr, enfin, il y a une question d'imaginaire aussi à changer. Les gens pensent que ça va être une catastrophe de tout réduire. Non, mais en fait, il y a plein de trucs qui sont pas carbonés, qui sont géniaux à faire. Je suis pas plus triste aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment changé mon mode de vie. Je suis pas plus triste aujourd'hui. Enfin, la vie continue. Je redécouvre d'autres choses que j'avais plus le temps de faire, etc. Il y a un truc qui est hyper important. C'est la semaine de 4 jours. 100% de mes amis qui sont passés de 5 jours à 4 jours, il y en a pas, et qui ont perdu donc à peu près environ 20% de salaire. Donc,
pour ceux qui peuvent se le permettre.
Pour ceux qui peuvent se le permettre. Mais bon, encore une fois, c'est les plus riches qui polluent. Donc, c'est surtout à eux que je m'adresse. Les gens qui ont fait ce move-là, il n'y en a pas un qui regrette, ou pas une qui regrette. Et pas une seule personne reviendrait en arrière. Autre chose, toutes les personnes qui ont quitté leur travail par conviction, beaucoup ont perdu de salaire, etc., dont moi. Je fais des sondages sur les réseaux sociaux, etc. J'ai pas eu une seule personne qui m'a dit « je reviendrai en arrière ». C'est-à-dire que je reprendrai un boulot, on va dire, alimentaire, ou... Enfin, typiquement, moi qui lâche mon pote et tout mon travail aujourd'hui et qui retourne en cabinet de conseil, aller conseiller Total pour faire des énergies vertes, tu vois. Il n'y a pas une personne qui ferait ça. Donc, c'est important. On parle du refus de parvenir. En fait, avant de faire ce move, et aujourd'hui, moi, c'est ça. En gros, je leur dis, OK, c'est quoi votre travail? Qu'est-ce que vous pourriez faire de mieux? Qu'est-ce qui vous plaît, etc. Les gens n'ont plus le temps, ne prennent plus le temps. Moi, j'ai tellement d'amis. Tu commences à 8 heures, tu finis à 8 heures. Tu t'occupes soit des enfants ou d'autres choses, etc. T'as pas le temps.
Ouais, t'as pas de disponibilité mentale.
C'est pas possible. Tu gagnes de l'argent, mais tu fais quoi? C'est quoi le but? Tu vas te réveiller à 60 ans? T'as plus de santé? T'as eu 4 burn-out dans ta vie? C'est ça. Et en fait, il faut prendre 3 secondes, ou un peu plus, et dites-vous, OK, qu'est-ce que je veux vraiment, etc. Et en fait, mais c'est fou, mais on ne prend plus le temps.
Et c'est intéressant que tu dises ça. J'ai lu une statistique dernièrement sur je sais pas comment on dit en français, mais enfin, je sais comment on dit en français, mais le self-care, donc le soin de soi, hein, ça se traduit mal. En tout cas, on n'utilise pas l'expression en français. Et en fait, c'est une économie énorme, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars. Et en fait, ce qui est intéressant dans ces statistiques, c'est de regarder que, en fait, ce qu'on a cherché à faire avec le self-care quand ça a été créé dans les années 60, c'était pour réduire les impacts de la société, c'est-à-dire le travail à outrance, cette société performative, donc en fait qui te stresse, donc réduire le stress. Comment on fait pour réduire le stress? Et aujourd'hui, quand tu regardes les stats, alors j'ai plus la source en tête, mais c'est 0,11% des gens qui s'intéressent au self-care qui veulent réduire le stress. En fait, ce qu'ils veulent aujourd'hui, surtout, c'est la performance, performer, c'est-à-dire combien de temps tu médites, combien de séances de yoga tu arrives à faire, combien de cérémonies d'ayahuasca tu as pu faire dans ta vie, on est toujours dans cette logique hyper performative et plus du tout dans cette réduction du stress. Et en fait, ce que tu décris dans le fait de travailler dans les 4 jours, mais aussi, moi, ce que je te disais tout à l'heure sur le fait de ralentir, sur le fait de se concentrer sur ce qui te fait du bien, et en fait, ce qui te fait du bien, ça n'a rien à voir avec le capitalisme, c'est simplement d'être dans une forme de tribu, c'est-à-dire de voir, je sais pas si tu as lu Sébastien Junger, Tribe, c'est un bouquin hyper intéressant sur les tribus.
Non, mais maintenant, je vais le lire.
C'est un anthropologue, c'est super bien. Et du coup, tu te rends compte que, alors je te raconte l'histoire comme dans Tribe, qui est une histoire intéressante, qui est, pendant l'invasion des Européens aux États-Unis, quand il y a des Européens qui se faisaient capturer par des Indiens et qui restaient vivants, ils ne voulaient plus retourner dans la ville. Parce qu'en fait, ils avaient trouvé une tribu, ils étaient intégrés dans une tribu, et du coup, ils ne voulaient plus retourner, ce qui n'était évidemment pas vrai dans l'autre sens. Quand tu es dans une tribu, c'est ça qui, tu vois, te porte et te fait du bien. T'as pas besoin de tout le reste, finalement.
J'ai un mini exemple en tête. Je fais un parallèle. Ça va être un peu fou, mais tu vas comprendre ce que je dis. Regarde les gens qui quittent Paris pour la province. Je ne connais pas une personne qui a fait le move inverse et qui s'est dit, putain, finalement, Paris me manque. Vraiment, ça fait 10 ans que je fais, parce que c'est en plein questionnement pour ma vie perso aussi. Ça fait 10 ans que je pose cette question. Personne ne veut revenir à Paris. Et je dis, mais si je te double ton salaire, moi, j'en ai rien à foutre. Ça, c'est la réponse. Les gens ne veulent pas revenir à Paris. Parce qu'on a un mode de vie, mais c'est vrai, on est dingos. On ne prend pas de temps pour nous, on ne réfléchit pas. Et tu parlais de changement de système, ça en fait partie. Encore une fois, il faut changer ce système qui n'est pas bon et pour le bonheur, et pour notre santé, et pour la planète. Donc en fait, il y a plein de raisons de changer de système. Ça commence, j'ai l'impression, depuis 10-15 ans, parce que j'ai relu, hein, je ne suis pas forcément alerte sur ces sujets depuis 10-15 ans, mais historiquement, là, il y a des gros mots qui ne passaient pas il y a encore quelques années, il y a 3 ans. Si tu disais décroissance il y a 3 ans, bon, tu prends encore quelques insultes aujourd'hui.
Oui.
Mais tu en prends moins. Il y a quand même des gens qui se disent « Ah, peut-être il y a un problème, peut-être il y a un réchauffement climatique. » Et ensuite, le fait de parler du capitalisme, typiquement, ça commence à venir. Les gens se disent peut-être c'est pas terrible ce qu'on est en train de faire, peut-être il y a des inégalités, ça n'y répond pas, etc. Donc j'ai l'impression, en tout cas, c'est une fenêtre d'Overton. Moi, mon activité sur LinkedIn, typiquement, au début, j'y suis allé doucement. Bonjour, il y a un petit problème avec l'écologie, etc. Bon, aujourd'hui, j'arrive. Bon, écoutez, capitalisme, c'est de la merde. Vous avez un problème ou pas? Et je peux déjà me le permettre. Là.
Tu peux expliquer la fenêtre d'Overton rapidement?
La fenêtre d'Overton, c'est de pousser un peu des idées extrêmes. Et ça permet, en fait, typiquement, là, si moi, Thomas, je dis des trucs absolument extrêmes, par exemple, le capitalisme est un problème et non soutenable, ça déplace la fenêtre d'Overton, et la personne qui va arriver derrière et juste dire « bon, il faut changer de système, effectivement, il y a un problème, etc. » Avant, elle n'aura pas été écoutée, mais comme là, il y a une personne qui a repoussé la fenêtre d'Overton, qui a repoussé les extrêmes d'un côté, elle sera plus à même d'être écoutée. Je te fais un parallèle. Éric Zemmour.
C'est ce que j'allais dire.
Et Éric Zemmour qui te. Il dit des. Mais tous les jours, il dit des horreurs impensables. Et aujourd'hui, les enquêtes de sondage, là, sont en train de dire que depuis 6 mois, Marine Le Pen est beaucoup plus douce, est beaucoup plus présente, est beaucoup plus avenante. Nanana. Donc en fait, le mec a servi. Aujourd'hui, c'est Marine Le Pen égale Alice au Pays des Merveilles. Mais grâce à Éric Zemmour.
Moi, ce que je vois aussi, et là, je ne vais pas me faire des amis, mais même les partis de droite, entre guillemets, modérés, je trouve qu'ils amènent des idées qui sont. Enfin, qui, il y a quelques années, ont été associés à l'extrême droite, en fait.
Ouais, j'ai un très bon exemple. Bah, Valérie Pécresse, que j'ai déjà croisée une ou deux fois, parce que j'habitais dans les Yvelines avant. Valérie Pécresse, en 2015, pour sa campagne, elle a fait campagne sur l'islamophobie. Donc elle a dit, attention, il ne faut pas taper sur les musulmans, etc. Valérie Pécresse, en 2021, pour sa région, elle a fait campagne sur l'islamo-gauchiste, et sur les indigénistes, et sur les décroissants. Mmh. Elle a dit, c'est les ennemis de la République. Donc, tu as bien vu qu'il y a un déplacement totalement des idées. Bien sûr, et alors, je ne parle même pas du sud de la France, Greg, où tu viendras peut-être cet été. Oh, c'est une catastrophe. J'ai entendu des mots cet été-là que je n'avais pas entendu depuis 15 ou 20 ans à Paris. Oh, ben dans le sud, il y a un racisme décomplexé. C'est une dingue. Je ne sais même pas s'ils s'en rendent compte. Donc, oui, je ne suis pas très rassuré.
Comme ils sont entre eux, ils ne s'en rendent pas compte. Mais...
C'est possible, oui.
Il y a un sujet que tu voulais traiter aussi, qui était le féminisme, tu voulais qu'on en parle en tout cas. Pourquoi tu voulais qu'on en parle et pourquoi c'est important pour toi ?
Encore une fois, je pense que c'est une question systémique, donc tout est lié. Mmh. Et je me rends compte, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Alors, c'est difficile, petit préambule, c'est difficile de parler de féminisme en tant qu'homme, parce que tu te fais tacler par les hommes qui pensent que t'es un enfoiré et que t'essayes d'être bien auprès des femmes. Et les femmes, en tout cas certaines, peuvent te dire t'essayes de récupérer la cause, on s'en fout de toi, on n'a pas besoin de toi, on n'a pas besoin d'alliés. Vraiment.
C'est et puis il y a les troisièmes qui vont dire que t'essentialises. Et c'est vrai, on essentialise beaucoup les femmes.
Et j'essentialise. Mmh. Donc. Mais en fait, mon discours, en tout cas, ça m'intéresse vraiment, le féminisme. Je lis depuis des années. J'ai interviewé Stacy Algrin sur l'écoféminisme. Mmh. Vraiment, donc c'est vraiment un sujet. Et je me rends compte, est-ce que là, c'est difficile à déconstruire ? Là, on est deux hommes, que l'agressivité, de manière générale, l'esprit de compétition, mais l'agressivité, en tout cas, là, sur les réseaux sociaux, putain, ça fait 3 ans vraiment que je regarde tous les jours, c'est que des hommes. Les seuls qui se permettent, alors que moi je travaille avec des scientifiques, je dis voilà ce que présente le GIEC, les seuls qui se permettent d'arriver et de dire bon écoute, moi j'ai compris, toi t'as rien compris, c'est des hommes. Je n'ai pas eu une seule femme en 3 ans, et il faut écouter Juliette Noël qui est journaliste, j'en ai parlé avec elle, et c'est pareil. Salomé Saké sur Blast, Paloma Moritz, etc. Je discute avec elle. Il n'y a que des hommes qui sont agressifs, qui arrivent à t'insulter en permanence, etc., etc. Donc en fait, mon discours aujourd'hui, parce qu'une société soutenable, effectivement, ce n'est pas qu'une société neutre en carbone. On ne peut pas continuer à vivre comme ça, etc. Donc mon discours, je ne parle même pas aux femmes, je parle aux hommes. Et en une phrase, c'est « fermez-la ». En gros, fermez-la, arrêtez de penser que votre avis est indispensable, sourcez ce que vous dites, etc. Est-ce que ce que vous dites sur les réseaux sociaux, vous pourriez le dire en vrai face à la personne? Est-ce que ça ne va pas la blesser? Est-ce que ça amène quelque chose au débat? Et ensuite, si vous vous taisez un peu, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont pouvoir s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la majorité des femmes m'écrivent en privé. Elles n'osent pas comment y aller ou commenter en public parce que c'est des connards, j'ai pas d'autres mots, qui amènent leurs fraises, qui racontent n'importe quoi et qui en plus parfois sont violents et qui s'en prennent à d'autres personnes. C'est pas forcément à moi, c'est à d'autres personnes. Et elles n'osent pas.
Et que ça prend de physique aussi. Tu remarqueras quand il y a des vidéos sur Brut, par exemple, la majorité des commentaires quand c'est une femme se concernent le physique.
Ah ben je peux te le dire, j'ai fait 15 interviews, je pense, depuis le début avec Bon Pote. La seule personne qui s'est fait attaquer sur le physique, c'est Stacy Algrin. Donc je lui passe le bonjour. Mais j'avais honte. Je fais, mais enfin, taisez-vous en fait.
Ce podcast s'appelle Vlan. Donc j'aimerais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte.
Une petite remarque pour toi, Greg. Si tu peux faire l'effort de poser une seule question sur l'écologie à tous tes prochains invités, je pense que c'est important. On a besoin de tout le monde, il faut que tout le monde en parle. Et j'espère, parce que je t'écoute avec plaisir. Et ce qui est génial, comme je m'intéresse à tout, c'est que tu discutes de plein de sujets. Et je pense que même les gens qui sont pas alertes vont peut-être y penser. Donc, ça, c'est pour l'ouverture. Et fermer la porte, je ferme la porte à rien du tout. Moi, je veux bien discuter avec tout le monde. En fait, il y a deux choses qui m'énervent vraiment, c'est la mauvaise foi et le racisme. Bon, parfois, c'est lié. Mais à partir du moment où les gens ne pratiquent pas l'un des deux, je discute avec tout le monde, donc c'est open.
Ok, super. Merci beaucoup.
Merci, Greg.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg From Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt !